Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est la forme du baptême. Dans la Bible, nous lisons que les habitants de la Judée se faisaient baptiser par Jean-Baptiste. Un peu plus tard, nous voyons selon Jean 4, versets 1 et 2, que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. En Actes chapitre 2, nous apprenons qu'après la mort et la résurrection de Jésus, 3000 personnes ont été baptisées le jour de la Pentecôte, suite à la prédication de l'apôtre Pierre. On remarque dans le livre des Actes que partout où l'Évangile était prêché, ceux qui croyaient au message recevaient le baptême. Ce n'était donc pas un acte sans importance. De nos jours aussi, la quasi-totalité des dénominations dites chrétiennes parlent de baptême. Seulement, ce qu'on appelle baptême varie beaucoup d'une dénomination à l'autre. Dans certaines églises, on asperge quelques gouttes d'eau sur la tête de la personne qu'on baptise. Ou bien on passe un mouchoir mouillé sur son front. Chez certains, on verse de l'eau sur la personne, et chez d'autres, la personne se prosterne devant une croix plantée dans l'eau. Chez d'autres encore, on immerge la personne tout entière dans l'eau. Mais au fait, quand Jésus dit en Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », de quoi s'agit-il ? Comment Jésus et ses apôtres entendaient-ils le mot « baptiser » ? La Bible nous indique-t-elle la forme du baptême ordonné par Dieu ? Nous voyons un premier indice en Jean 3, verset 23, qui nous parle de l'endroit que Jean-Baptiste a choisi pour baptiser les gens. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Quelle que soit la forme du baptême utilisée par Jean, elle nécessitait beaucoup d'eau, ce qui écarte la possibilité qu'il pratiquait l'aspersion. Si Jean ne mettait que quelques gouttes sur chaque personne, un grand bassin d'eau aurait suffi pour baptiser une grande foule. Matthieu 3, verset 16 nous parle du baptême que Jésus reçut. Ce passage aussi nous donne un indice concernant la méthode de baptême employée par Jean-Baptiste. Le passage dit « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau ». Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Évidemment, l'élément qui nous intéresse en ce qui concerne notre question est le fait que Jésus dut sortir de l'eau après son baptême. Il avait donc été dans l'eau afin d'être baptisé, ce qui aurait été absolument nécessaire si on devait le submerger, mais assez étrange s'il était question de tout simplement l'asperger de quelques gouttes. La même remarque peut se faire pour le baptême qui était fait plus tard par les disciples au nom de Jésus. Acte 8, versets 26 à 39 décrit la conversion de l'eunuque éthiopien, à qui l'évangéliste Philippe a annoncé la bonne nouvelle pendant qu'ils voyageaient ensemble. Après que l'eunuque a confessé sa foi en Christ, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Notons bien que celui qui baptise et celui qui doit être baptisé descendent tous deux dans l'eau. Ce qui serait nécessaire si Philippe devait plonger l'eunuque dans l'eau, mais tout à fait illogique s'il voulait simplement lui mettre des gouttes d'eau sur la tête. Rappelons-nous que cet eunuque était un personnage d'importance dans le monde, étant, selon le verset 27, le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Il avait sûrement de l'eau dans un récipient dans son char. Il avait sûrement des serviteurs qui l'accompagnaient sur un si long voyage et qui auraient pu puiser de l'eau pour que Philippe en verse un peu sur sa tête. Pourquoi obliger un tel homme à descendre dans l'eau? La seule explication est qu'il devait être immergé. Les exemples que nous venons de voir sont aussi appuyés par des explications données par l'apôtre Paul dans ses épîtres aux Colossiens et aux Romains. En Colossiens 2, verset 12, il leur dit: ayant été ensevelis avec lui, c'est-à-dire avec Christ, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Dans le baptême, une personne est donc ensevelie comme Christ a été enterré. Quand le baptisé sort de l'eau, c'est comme s'il sort du tombeau de la même manière que Christ est sorti du sien. Le baptême est un ensevelissement. En Romains 6, Paul développe cette idée davantage. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, versets 2 à 5. Paul insiste donc sur le fait que nous mourrons au péché. Nous sommes enterrés en quelque sorte par le baptême, et notre sortie des eaux du baptême ressemble à une résurrection dans laquelle nous recevons une nouvelle vie et après laquelle nous devons vivre dans la justice. C'est une image pleine de signification, mais le sens n'y est plus si le baptême n'est pas une immersion. C'est la seule forme du baptême qui s'accorde avec les explications de l'apôtre Paul. En plus de ce que nous venons de voir ensemble, on peut considérer l'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot « baptisé ». Ce mot, en fait, n'est pas une traduction du mot grec employé par les auteurs de la Bible, c'est tout simplement une forme francisée du mot grec « baptizo ». La même chose se passe couramment entre le français et les langues africaines. Quelqu'un parle dans sa langue maternelle, insère les mots français « parce que » et continue dans sa langue maternelle. Les mots « parce que » sont généralement compris même par ceux qui ne parlent pas français, et l'expression est plus facile à dire que l'expression plus compliquée dans la langue africaine qu'on parle. Quand on dit les mots « parce que » tout en parlant une autre langue, « parce que » garde toujours le même sens. Il exprime la cause, la raison, le motif. Pareillement, le mot « baptisé » en français signifie la même chose que le mot grec « baptizo ». Et ce mot grec signifie « immerger »,« submerger » ou « plonger ». C'est ce que le mot signifiait au temps de Jésus. C'est ce que le mot grec « baptizo » signifie encore de nos jours. Cela montre clairement que l'on ne peut pas raisonnablement parler de baptiser quelqu'un par aspersion. Le mot « baptiser » veut dire « immerger ». Or, on ne peut pas immerger par aspersion. C'est un non-sens. Si l'on vous a tout simplement aspergé d'eau, vous n'avez pas, selon le sens du mot, été baptisé. En réalité, les prêtres et les pasteurs des églises qui pratiquent l'aspersion savent très bien qu'au premier siècle, le baptême était toujours l'immersion d'un croyant dans l'eau. Comment justifient donc leur pratique? Un argument est que l'on asperge les candidats au baptême pour une question de commodité. Il est plus facile de mettre quelques gouttes d'eau sur le fond que de plonger une personne tout entière dans l'eau. Il est vrai aussi qu'il faut parfois se déplacer un peu loin afin de trouver assez d'eau pour baptiser un homme, même jusqu'à se rendre dans un village voisin. Néanmoins, quand il est question d'un commandement de Dieu lui-même, ne devons-nous pas nous soucier plus de l'observer scrupuleusement plutôt que de chercher la facilité? Le jour de la Pentecôte, 3000 personnes ont été immergées, selon Actes 2, verset 41. Il aurait été plus facile de les asperger, mais ce n'est pas ce qui a été fait. Jésus lui-même a parcouru une distance de plus de 110 km à pied pour se rendre au lieu où Jean l'a baptisé. Et Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé pour ses propres péchés. Il n'en avait pas. Il l'a fait pour nous donner un exemple de justice. Ne devons-nous pas être prêts à suivre son exemple en acceptant n'importe quel sacrifice pour obéir à Dieu? Recherchons la justice de Dieu et non la commodité. Un autre argument offert en faveur de l'aspersion est que, malgré le fait que les apôtres ne la pratiquaient pas, c'est une méthode très ancienne et donc légitime. Mais le fait que des hommes ont vécu des siècles avant nous ne leur donne pas le droit de changer les ordonnances de Dieu. Jésus lui-même enseignait qu'il faut suivre la parole de Dieu plutôt que les commandements des hommes. Il dit à certains juifs, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, versets 7 à 9. Si le Seigneur avait ordonné de croire à l'Évangile et de subir une cérémonie religieuse avec de l'eau, on aurait le choix de se faire asperger, de se prosterner dans l'eau, de se faire immerger, ou même de boire un verre d'eau. Mais l'ordre n'a pas été si vague. Il n'existe aucun doute que le baptême que Jésus a ordonné et que les premiers chrétiens ont pratiqué était l'immersion dans l'eau. La question qui demeure est de savoir si nous allons obéir à son commandement de nous faire immerger pour manifester notre foi et notre soumission et pour recevoir le pardon de nos péchés.